Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal français Xavier de Calonne. Au moins 16 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation de candidats à l'exil au large de l'île de Lesbos en Grèce. Une trentaine d'autres sont portées disparues. Le soulèvement populaire en Iran, Paris annonce travailler avec l'Union européenne à l'adoption de sanctions à l'encontre de responsables de la répression des manifestants. Une révolte après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation pour un voile jugé mal porté. Nous y reviendrons avec l'auteure française d'origine iranienne, Maral Kianpour. La journée nationale des aidants, ces personnes qui s'occupent d'un proche handicapé, âgé ou malade. Elles sont une dizaine de millions en France. L'invitée de Pluriel hier soir était Françoise Fité, membre du Conseil national du Parti communiste. Elle réagit notamment au projet de loi sur le travail voulu par Emmanuel Macron, extrait dans votre édition. Un lourd bilan après le naufrage d'une embarcation de candidats à l'exil. C'est arrivé au large de l'île de Lesbos, en Grèce. Au moins 16 personnes, toutes des femmes, sont mortes et une trentaine d'autres personnes sont portées disparues. Une quarantaine de personnes se trouvaient à bord de l'embarcation au moment du drame. Le soulèvement populaire en Iran, Paris annonce travailler avec l'Union européenne à l'adoption de sanctions à l'encontre de responsables de la répression des manifestants. Une révolte populaire après la mort de Mahsa Amini. Suite à son arrestation pour un voile jugé mal porté, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, souhaite faire adopter le gel des avoirs et l'interdiction de voyager des responsables de la répression en Iran. Sur ce soulèvement populaire, entretien avec l'écrivaine d'origine iranienne, Maral Kianpour.
C'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur comme étant venu de nulle part. Mais c'est un peu, si vous voulez, comme l'étincelle qui couvait sous la flamme. Il y a un très vieux proverbe iranien qui dit quelque chose du type « sous la cendre couve la flamme ». Et ben, pour moi, Mahsa Amini a vraiment été l'étincelle, en fait. Elle a été la flamme sous cette cendre, mais il y avait des signes avant-coureurs. En fait, elle est devenue une martyre sans le vouloir, sans le chercher. Elle venait juste passer quelques jours de vacances dans la capitale avant d'aller reprendre ses études, mais sa mort, effectivement, a entraîné tout ce qui se passe là depuis 19 jours. Mais il faut savoir que ça vient, c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Il y a de grands soucis économiques en Iran. Il y a de grands soucis politiques aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressentiment de la population depuis pas mal d'années. Et on assiste peut-être aujourd'hui à ce qui n'a pas réussi à aller beaucoup plus loin lors des révoltes précédentes. Mais ce n'est vraiment pas qu'une histoire de voile. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Ça va être à la fois un problème de non-représentation politique, parce qu'il y a des gens qui sont non légitimes et extrêmement âgés qui gouvernent en Iran, là où la population est plutôt jeune. Il y a des manifestants, qui crient à bas le dictateur, donc cela veut bien dire qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans leur dirigeant. C'est aussi un problème sociétal, parce qu'avec l'absolue non-égalité homme-femme, donc avec la charia, très simplement, la femme vaut la moitié d'un homme. Et il y a également un problème économique catastrophique avec un taux de chômage qui est important, une inflation galopante, je crois, de l'ordre supérieur à 40% sur une année, il me semble. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'était une énorme surprise, mais la mort de Mahsa Amini a été vraiment l'étincelle.
Et vous le soulignez, la crise économique participe au développement de l'ampleur de la contestation.
Tout à fait. Alors, par exemple, moi, ça ne m'a pas vraiment étonné finalement que ce soit les femmes qui soient au début en première ligne de ces manifestations. Alors déjà, elles souffrent économiquement, mais en plus, de façon plus pragmatique, quand elles sortent dans la rue, elles ont cette chape de plomb qui s'abat sur elles. Donc, par exemple, si je veux voir du côté de la famille de mon père, il y a des hommes iraniens qui doivent cumuler 2, voire 3 emplois différents dans la journée pour pouvoir faire vivre leur famille. Ils sont tellement épuisés qu'ils s'écroulent en fait en rentrant chez eux. Par contre, les femmes vont faire leurs courses, n'arrivent pas à remplir leur caddie avec une inflation qui est énorme. Donc toute la rage, la colère qu'elles ont ravalée en elles depuis un moment, avec en plus le fait qu'on vous arrête à chaque coin de rue pour vous demander de bien remettre votre voile, moi ça me semble normal que les femmes explosent actuellement.
Ces manifestations auxquelles participent également les hommes.
Tout à fait, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'image un peu du macho oriental, bon, c'est pas du tout vrai en Iran. Hein. Enfin, vraiment, les jeunes d'aujourd'hui se mélangent beaucoup. Ils trouvent des moyens en fait de se voir, de se retrouver. Donc, les hommes de toute façon, oui, effectivement, sont tout à fait dans toutes ces manifestations-là. Donc, effectivement, oui, les hommes sont tout à fait présents. Oui.
L'Iran, qui est un pays particulièrement vaste, ce pays est-il connu à sa juste valeur, selon vous, notamment en France?
C'est vrai que je pense que depuis la révolution islamique, on ne parle que de l'islam intégriste, de l'islam politique. En fait, l'année 79, ça a vraiment été le tournant dans l'islam politique parce que on a vu apparaître cette façon de remettre l'islam au centre, en fait, d'un système politique, là où pourtant les gens réclamaient un système républicain. Donc, en fait, le chat a été chassé parce que c'était une révolte des gens, une révolte... Voilà, tout le monde voulait un système plus juste, plus égalitaire, et au final, bon, ça a été mille fois pire. Et je pense que malheureusement, ce que les gens gardaient peut-être, gardent encore aujourd'hui cette image de l'Iran, c'est que c'est un milieu extrêmement intégriste, extrêmement dur. Mais en fait, la civilisation perse est quand même très, très ancienne et repose sur des influences qui sont certes l'islam, mais il y a aussi toutes ces influences zoroastriennes, très anciennes, pré-islamiques, qui continuent de rythmer la vie quotidienne des Iraniens aujourd'hui.
Donc vous mettez en lumière l'aspect historique, cela aussi, cela doit être souligné.
Tout à fait. C'est vrai que c'est un vieil empire, donc les Iraniens d'aujourd'hui sont vraiment attachés en fait au fait d'appartenir à quelque chose de grand. Ensuite, ce qui a vraiment été un traumatisme de toute une génération, c'est aussi cette guerre Iran-Irak. Cette guerre Iran-Irak où il y a eu des millions de morts, où des jeunes garçons ont été envoyés comme chair à canon sur les champs de mines. Mais il faut savoir quand même que la génération qui défile actuellement sont plutôt des jeunes qui n'ont pas connu en fait cette guerre Iran-Irak. Donc c'est une jeunesse qui ne comprend pas vraiment les restrictions qu'on lui impose. Parce que si ces restrictions pouvaient être considérées comme secondaires ou peut-être même nécessaires comme un effort de guerre à l'époque de la guerre, quand il y avait des bombes qui survolaient Téhéran sur toute la décennie des années 80, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc la guerre s'est terminée il y a plus de 30 ans et donc une bonne moitié des Iraniens aujourd'hui ne l'a pas connue directement.
Quel regard portez-vous sur la mobilisation internationale face à la répression des manifestations en Iran ?
Moi, de ce que je comprends, c'est que ça compte. Enfin, les Iraniens sont quand même heureux de voir qu'ils ne sont pas complètement isolés du monde. Ça, c'est quelque chose dont la jeunesse iranienne souffre beaucoup. Parce qu'il faut savoir que le réseau Internet là-bas est vraiment... En fait, là, en ce moment, en plus, il est coupé à chaque manifestation. De toute façon, que ce soit le réseau Internet ou le réseau mobile est coupé par les autorités. Donc, les gens se retrouvent isolés, en fait, du monde extérieur. Donc, le fait de savoir qu'à Paris, qu'à Londres, qu'à Los Angeles, que partout, effectivement, à Kaboul aussi, les femmes, les hommes se lèvent et essayent, à leur échelle, de faire quelque chose... Même si c'est très peu, mais ça compte énormément parce qu'on se sent moins seul, on se sent appartenir au monde en fait. L'Iran est tellement isolé en fait géopolitiquement qu'effectivement pour les Iraniens, c'est un signal très fort.
Vous l'avez dit, à Kaboul également, le pays qui vit sous le régime des talibans, et bien dans ce pays, des femmes afghanes ont eu le courage de manifester.
Tout à fait. Et pour elles, c'est aussi dangereux que pour les Iraniennes. Donc, là encore, de voir que des femmes qui ont encore moins de droits que des Iraniennes osent sortir, manifester, et souvent à visage découvert en plus. Donc c'est des signaux effectivement très très forts.
Comment appréciez-vous la réaction des autorités ? Est-ce une réaction qui vous surprend ou alors une réaction à laquelle vous vous attendiez ?
C'est vrai que c'est un régime qui est dur, donc il ne sait répondre malheureusement que par la violence. C'est un régime qui n'a jamais su se réformer. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant certaines périodes de l'Iran, depuis les années 80, il y a eu alternance conservateur, réformateur, enfin modéré on va dire. Mais au final, ça n'a pas vraiment changé les choses dans la vie des gens. Donc ça ne m'étonne pas en fait vraiment qu'ils utilisent la violence pour essayer de continuer à gouverner. Mais il faut savoir que là, la contestation ne va qu'en s'amplifiant en fait. Elle ne diminue pas du tout. Autrefois, quand il y avait des révoltes dans une université par exemple, la police arrivait, délogeait tous les étudiants, les mettait en prison et ça s'arrêtait là. Là, en fait, ils ont beau arrêter les étudiants dans une université, et ben, ça sera une autre université, deux autres universités, trois autres universités qui vont s'y mettre. Là, actuellement, c'est même les lycées, apparemment les lycéennes, les lycéens qui commencent à manifester. Donc ça s'étend en fait, ça s'étend vraiment beaucoup. En plus, les témoignages que j'ai pu avoir, c'est que vraiment les gens veulent vraiment en fait que ça change. Il n'y a pas de retour en fait. Donc j'espère que vraiment, il faudrait que la police, l'armée déposent les armes et permettent aux gens de pouvoir accéder aux instances politiques. Parce que là, je ne vois pas comment on va s'en sortir, à moins que ça finisse dans un bain de sang, ce que je n'espère pas du tout, mais voilà.
Et c'est un mouvement qui est notamment porté par la jeunesse. Vous avez fait référence aux étudiants et aux manifestations, notamment dans les universités.
Bah, c'est vrai que pour les jeunes, c'est encore pire. Bon, c'est vrai que partout dans le monde, la jeunesse se vit dans la rébellion, dans l'opposition à la génération précédente. Donc il est finalement tout à fait logique, concernant un système qui est aussi autoritaire, les jeunes soient naturellement portés à vouloir remettre en cause les règles établies. Mais pour les filles, par exemple, comme elles sont tenues à s'habiller de façon extrêmement couverte, elles en rajoutent, par exemple, beaucoup sur leur visage. Elles se servent de leur visage pour exprimer une forme de liberté. Ça va être leur acte de révolution quotidien avant de sortir dans la rue. Elles vont se mettre du rouge à lèvres très vif, foncer leurs yeux avec beaucoup de colle, faire des mèches de toutes les couleurs. C'est vrai que ça peut paraître futile en Occident, mais quand on risque la prison, la matraque ou même la mort pour un voile mal porté, on se rend vraiment compte que se maquiller en Iran, par exemple, ce n'est pas du tout futile.
L'écrivaine Maral Kianpour, son dernier roman aux portes du paradis aux éditions Éric Bonnier. La première ministre française est attendue dimanche à Alger pour une visite de 2 jours. Elisabeth Borne présidera avec son homologue algérien la 5e réunion du comité intergouvernemental de haut niveau. Un déplacement un peu plus d'un mois après celui d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne viendra avec 16 membres de son gouvernement. La Tunisie, comme de nombreux autres pays, est en proie à une inflation galopante, une hausse des prix de 9,1% en septembre dernier contre 8,6% en août, son plus haut niveau depuis près de 40 ans. Cela dans un contexte marqué par une pénurie intermittente des produits de base sur les marchés locaux et une forte hausse des prix alimentaires à l'échelle internationale. Le capitaine Ibrahim Traoré a officiellement été désigné président du Burkina Faso dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Il avait mené un putsch vendredi dernier dans ce pays qui avait vécu 2 coups d'État en 8 mois. Des difficultés d'approvisionnement en essence, elles touchent toute la France, surtout les stations Total Énergie. En cause, une grève pour la revalorisation des salaires, un mouvement à l'appel de la CGT. Plus d'une station sur 10 serait privée de tout ou partie de leur carburant et les files d'attente dans les stations où il y a de l'essence sont parfois très longues. L'invité de Pluriel hier soir était Françoise Fité, conseillère départementale du canton de Perpignan 3, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, membre du Conseil national du Parti communiste. Elle a réagi notamment au texte discuté par les députés, un projet de loi sur le travail voulu par Emmanuel Macron. Il s'agit de réduire l'indemnisation des chômeurs quand le marché du travail se porte bien. Extrait de cette émission avec Françoise Fité.
C'est une réforme qui en suit une précédente et qui a déjà diminué les droits des privés d'emploi. Qui a augmenté les freins pour accéder à ces droits. Et bon, c'est un projet qui, encore une fois, cible dans le sens de la stigmatisation les privés d'emploi, comme si c'était une situation dans laquelle ils se complaisaient. Et donc les mesures qui ont aggravé l'accès aux droits seraient encore plus aggravées puisqu'il est question de modulation des droits en fonction de la conjoncture. Il s'agit d'un changement profond dans la philosophie de l'assurance chômage. À la base de l'assurance chômage, qui est financée par des cotisations, ça relève de la protection sociale. Or, il y a une volonté de l'étatiser de la part du gouvernement, d'en faire un levier c'est pour propre politique sociale, quoi. Donc, c'est vraiment une très, très mauvaise loi qu'il faut combattre, qui s'en prend. Encore une fois, à des acquis, à des conquis importants qui, jusqu'à maintenant, alors il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'assurance chômage, mais protéger plus ou moins les personnes qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvaient sans emploi. Voilà.
Françoise Fité, Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste, effectue une tournée sur le thème de la valeur travail. Comme lui, vous préférez que les Français vivent de leur travail plutôt que des minima sociaux. Une prise de position lors de la fête de l'humanité qui avait choqué d'autres élus de gauche.
Oui, tout à fait. Enfin, moi, je ne partage pas la manière dont c'est dit. Par contre, ce qui est une réalité, c'est que aujourd'hui, la valeur travail, on ne peut pas le dissocier de la question du travail tel qu'il est et tel que les gens le vivent dans une société capitaliste, quand même, avec beaucoup d'aliénation, beaucoup de souffrance au travail pour un certain nombre de personnes, beaucoup de précarité aussi. Donc, c'est effectivement l'intérêt, c'est que le débat est parti sur. Enfin, a grandi sur ces questions à gauche. Il est certain que, moi je pense, et d'ailleurs c'est une proposition de longue date du Parti communiste, qu'il est important de sécuriser l'emploi, la formation, tout au long du parcours d'une personne, à partir du moment où elle a fini ses études à 18 ans jusqu'à l'âge de la retraite, à 60. Et que pendant tout ce temps-là, qu'il soit au travail, qu'il soit en formation, qu'il se consacre à un travail associatif, parce que dans la vie, eh bien, on peut changer. Et je crois que la jeunesse aujourd'hui, elle a envie de vivre une vie professionnelle de plusieurs manières, puisse avoir un revenu permanent, donc un salaire quand c'est le travail. Et y a un débat, il y a la sécurité en formation, il y a le salaire à vie proposé par Bernard Friot, par exemple, hein, qui est quand même aussi fondé sur le principe d'une cotisation sociale et donc de la responsabilité des entreprises de la création qui s'appuie sur la création de richesses. Je crois qu'effectivement, il y a besoin de ces mesures-là, d'en débattre et de proposer une façon de concevoir le travail qui est effectivement peut-être aussi un facteur d'émancipation, bien entendu. Mais voilà, que ça soit plus le travail tel qu'on peut le vivre aujourd'hui et qui finalement perd son sens, puisque beaucoup de catégories professionnelles d'ailleurs sont en difficulté par manque de reconnaissance du rôle qu'elles jouent. Le travail doit servir à répondre à des besoins, aux besoins humains dans leur intégralité, et doit pouvoir être fait, exécuté dans un enrichissement de la personne. Voilà, enfin moi c'est comme ça que et en tant que communiste, que je conçois les choses.
Françoise Fité, conseillère départementale du canton de Perpignan 3, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, membre du conseil national du Parti communiste. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière. Émission disponible sur votre site internet radioorient.com. L'Algérie face au monde, quel poids diplomatique, le thème des jeudis de Lima. Ce soir à 19h à l'Institut du monde arabe à Paris, les intervenants d'Alia Ghanem, chercheuse sur l'Algérie, Jean-François Daguzan, vice-président de l'Institut Choiseul, et Karim Kader Abderrahim, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, directeur de recherche à l'Institut Prospective et de sécurité en Europe. Une table ronde modérée par notre collègue à Radio Orient, Loïc Barrière. Et à 19h et 23h, et si on en parlait, le thème de cette émission, aimons-nous encore la liberté? Alexis Bachelet recevra Christophe Pébart, historien à l'Université Bordeaux-Montaigne, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes bien sûr Radio Orient à 15h, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal en langue française. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.